de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Présidé la réunion des ministres des Affaires étrangères de MICTA, l'Indonésie encourage le rôle croissant de MICTA en tant que puissance moyenne. Vice-président a présenté trois stratégies pour mettre fin à l'extrême pauvreté cette année. Agence indonésienne de sécurité maritime, Bakamla d'Indonésie, a reçu des représentants français pour discuter de la coopération en matière de sécurité maritime. Ministre de la main-d'œuvre et l'OIT se sont rencontrés pour discuter de la réalisation du programme de travail décent. Indonésie participe au 45e Salon international du tourisme à Belgrade. Pologne étudie la coopération avec le gouvernement provincial du Kalimantan Occidental. Java Oriental et la Suisse explorent la coopération dans le secteur du commerce et de l'investissement. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présidé la réunion des ministres des Affaires étrangères du MICTA, Mexique, Indonésie, Corée du Sud, Turquie et Australie. Dans une déclaration reçue à Jakarta, jeudi 22 février 2024, la ministre Retno Marsudi a déclaré que sa partie a souligné l'importance de renforcer le rôle de MICTA en tant que puissance moyenne. En dehors de cela, selon elle, MICTA doit profiter de la diversité en tant que groupe interrégional.
MICTA harus berkontribusi untuk meredakan ketegangan.
MICTA doit contribuer à apaiser les tensions dans leurs régions respectives, notamment en tant que pouvoir rassembleur. Par exemple, permettez-moi de donner un exemple, le rôle de l'Indonésie dans sa tentative de continuer à contribuer au maintien de la stabilité et de la paix en Asie du Sud-Est. En outre, la ministre des Affaires étrangères Retno a souligné que MICTA doit être en mesure de produire des projets plus concrets pour surmonter les défis mondiaux. Selon elle, la réalisation des projets concrets de MICTA augmentera le rôle de MICTA dans la gouvernance mondiale. Le vice-président Maruf Amin a présenté trois stratégies gouvernementales visant à réduire le taux de pauvreté à 7,5% et extrême pauvreté à 0% en 2024. Cela a été transmis par Maruf Amin lorsqu'il présidait une réunion au niveau ministériel concernant la réduction de la pauvreté au palais du vice-président à Jakarta, jeudi 22 février. Cité par Antara, ces stratégies consistent d'abord à s'efforcer d'améliorer les données de la communauté cible, deuxièmement, des interventions spéciales pour les programmes d'assistance sociale, de sécurité sociale et d'autonomisation économique dans les zones de pauvreté. Troisièmement, distribution de programmes supplémentaires en dehors des programmes réguliers tels que l'aide au riz et l'aide directe en espèces, BLT El Nino, qui peuvent constituer un effort particulier pour accélérer la réduction de la pauvreté. Le chef de l'Agence indonésienne de sécurité maritime, Bakamla, le vice-amiral TNI Irwansyah, a reçu la visite de l'attaché de défense français, le colonel Sven Meik, et son adjoint, le lieutenant-colonel Olivier Kam. La réunion a eu lieu dans la salle Arya Sibuan du quartier général de Bakamla d'Indonésie, à Jakarta, jeudi 22 février. Ils ont discuté de la coopération en matière de sécurité des océans. Dans le communiqué de presse de Bakamla, reçu par Antara, Irwansyah, lors de la réunion, a exprimé son appréciation pour le soutien et la coopération apportée jusqu'à présent. Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté plus en détail de la formation conjointe qui a été réalisée entre Bakamla et les forces de sécurité maritime françaises. Ils étudient également la coopération entre Bakamla d'Indonésie et les gardes-côtes français en termes d'augmentation des capacités en personnel. La France propose également le placement d'experts en sécurité maritime à Bakamla RI. Bakamla RI participera également au deuxième dialogue maritime bilatéral BMD en France. La ministre de la Main-d'œuvre, Ida Fauzia, a rencontré le directeur de l'Organisation internationale du travail, OIT, pour l'Indonésie et le Timor-Leste, Simrin Singh, au bureau du ministère de la Main-d'œuvre à Jakarta, jeudi 22 février. Ils ont discuté de la réalisation du programme de travail décent en Indonésie. Cité par Antara, la ministre Ida Fauzia a déclaré que le programme de travail décent est le principal moyen de l'OIT pour promouvoir le travail décent en tant qu'élément clé de la stratégie nationale de développement. Ida Fauzia a également exprimé l'espoir que l'OIT soutiendrait la coordination entre les ministères et les institutions ainsi que les parties prenantes dans la mise en œuvre de la Convention de l'OIT, en particulier en ce qui concerne la Convention du travail maritime. Le ministre de la Main-d'œuvre espère également qu'à l'avenir, l'OIT pourra devenir un partenaire tripartite potentiel de l'Indonésie dans les efforts visant à accroître la compréhension et le respect des règles entre employeurs et travailleurs afin de minimiser les cas de conflits de travail qui pourraient survenir. L'Indonésie participera au 45e Salon international du tourisme qui a lieu à Belgrade en Serbie du 22 au 25 février 2024. Ce salon touristique est le plus grand salon de tourisme et le plus visité de la région des Balkans. Un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères, jeudi 22 février, a déclaré que la participation de l'Indonésie à l'exposition touristique de cette année n'était pas seulement un événement de promotion du tourisme, mais aussi pour célébrer 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Serbie. La participation de l'Indonésie à cette exposition montre l'engagement de l'Indonésie à renforcer la collaboration internationale dans le secteur du tourisme, pour présenter les opportunités touristiques diversifiées et dynamiques que l'Indonésie a offertes. L'ambassade de la République d'Indonésie à Belgrade, en collaboration avec l'Agence de mise en œuvre de l'autorité de Labuan Bajo, Flores, et le ministère du Tourisme et de l'économie créative, présentera trois agents de voyage pour promouvoir divers aspects du tourisme indonésien. Les trois agents de voyage présenteront diverses beautés naturelles, le patrimoine culturel, des expériences culinaires et des forfaits de voyage de qualité. L'ambassadeur adjoint de Pologne en Indonésie, Piotr Firlus, a effectué une visite de travail à Pontianak pour explorer une éventuelle coopération avec le gouvernement provincial du Kalimantan occidental. Cité par Antara, l'ambassadeur adjoint Piotr Firlus à Pontianak a déclaré jeudi 22 février que l'un des principaux objectifs de cette visite était d'explorer les opportunités de coopération maritime, énergétique, sanitaire, numérique et des transports. Piotr a noté que Pontianak est le principal port et terminal dans les eaux internationales entre Kalimantan, Sumatra et la mer de Chine méridionale et que la Pologne est donc intéressée à collaborer avec l'Indonésie. La visite de Piotr vise également à discuter d'éventuels échanges d'étudiants et de projets de recherche communs. Le gouvernement provincial de Java-Est et le gouvernement suisse explorent la coopération en matière de commerce et d'investissement tout en renforçant les relations entre les deux. Cette étude a été réalisée lors d'une réunion entre le gouverneur par intérim de Java-Oriental, Adi Karyono, et l'ambassadeur de Suisse-Indonésie au Timor-Leste et à l'ASEAN, Olivier Zender, à Surabaya, jeudi 22 février. Outre la discussion sur le renforcement de la coopération, le potentiel de commerce et d'investissement qui pourrait être accru entre Java-Oriental et la Suisse a également été discuté. Adi Karyono, après la réunion, Sitepa Antara a affirmé qu'il avait proposé à l'ambassadeur de Suisse 2 zones économiques spéciales et 5 zones industrielles dans l'est de Java pour répondre aux besoins des investisseurs et entrepreneurs potentiels. Pendant ce temps, l'ambassadeur Olivier a estimé que Surabaya possède l'économie la plus forte en Indonésie et que la réunion permettra de développer davantage la coopération dans le secteur économique entre l'est de Java et les entreprises suisses. Ces étapes, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Ministres indonésiens et australiens de la défense discutent du renforcement du partenariat de défense » avec Maudry. Sur Jouitard, le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a reçu la visite du vice-premier ministre de l'Australie, qui est également ministre de la Défense de l'Australie, Richard Marles, à la résidence de Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Java Occidental, vendredi. Prabowo a déclaré que les discussions stratégiques discutées incluaient l'importance du renforcement du partenariat de défense en cours entre l'Indonésie et l'Australie. Citant le site officiel du ministère de la Défense de la République d'Indonésie, samedi, Prabowo Subianto a déclaré que l'Australie avait contribué positivement en renforçant la coopération, l'interopérabilité et la coordination entre les services médicaux militaires des pays de l'ASEAN. Réunion des ministres de la Défense, ADMM+. Cette contribution a été apportée lors de la présidence conjointe de l'Australie avec Brunei Darussalam au sein du groupe de travail d'experts EWG de la réunion plus des ministres de la Défense de l'ASEAN, ADMM+, sur la médecine militaire pour la période 2021-2024. Actuellement, l'Indonésie et l'Australie entretiennent une coopération en matière de défense qui régit un certain nombre de collaborations. Entre autres choses, la coopération dans les domaines de l'industrie de la défense et de l'éducation, de la formation ainsi que de la sécurité maritime, d'autres coopérations telles que l'aide humanitaire et la gestion des catastrophes, ainsi que le maintien de la paix et d'autres domaines d'intérêt mutuel. Parallèlement, le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré son engagement en faveur du partenariat stratégique avec l'Indonésie. Selon lui, le gouvernement australien, en particulier sous l'administration du Premier ministre Anthony Albanese, était très attaché au partenariat étroit entre l'Australie et l'Indonésie. Il a ajouté que la rencontre avec le ministre de la Défense Prabowo Subianto visait à approfondir la coopération en matière de défense à travers un partenariat stratégique global entre les deux pays. Le ministre australien de la Défense Richard Marles a ajouté que les relations de l'Australie avec la région entourant l'Australie sont très importantes pour la sécurité et la prospérité de son pays. Le gouvernement australien continuera donc de donner la priorité à la coopération régionale. Le ministre de la Défense Prabowo Subianto a également exprimé la volonté de l'Indonésie de poursuivre son précieux héritage avec l'Australie et Brunei Darussalam au sein du groupe de travail d'experts ADMM+, sur la médecine militaire. L'Indonésie a également demandé le soutien de l'Australie pour qu'elle co-préside avec les États-Unis le groupe de travail d'experts ADMM+, sur la médecine militaire pour le prochain cycle. L'Indonésie et les États-Unis assureront la coprésidence pour la période 2024-2027. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Je commence cette histoire aujourd'hui avec les événements du 23 février 1923. Ahmad Dahlan est mort. Kiai Haji Ahmad Dahlan est un religieux de la région spéciale de Yogyakarta qui a fondé l'une des plus grandes organisations islamiques d'Indonésie, Muhammadiyah. Il est le deuxième descendant de Sheikh Maulana Malik Ibrahim, l'un des éminents Wali Songo, le pionnier dans la propagation de l'islam à Java. En 1912, il a fondé l'organisation Muhammadiyah dans le village de Kauman, Yogyakarta. Il est décédé le 23 février 1923 à l'âge de 55 ans. Un an avant sa mort, Ahmad Dahlan souffrait d'une maladie pulmonaire. Le médecin lui a donc conseillé de se reposer à Tretes dans l'est de Java et d'être enterré à Yogyakarta. Pour le service de Kiai Haji Ahmad Dahlan de sensibiliser la nation indonésienne à travers la réforme et l'éducation islamique, le gouvernement indonésien l'a désigné héros national en 1961. Thank you. Le 23 février 1947, la création de l'Organisation internationale de normalisation. Cette organisation est une organisation internationale d'élaboration de normes composée de représentants des organismes nationaux de normalisation de chaque pays. À partir de 1926, l'Association nationale de normalisation se concentre sur la normalisation du génie mécanique. En 1946, 55 délégués de 25 pays se sont réunis à Londres, en Angleterre, pour discuter de l'avenir de la normalisation internationale. En 1947, l'Organisation internationale de normalisation est officiellement fondée avec 67 comités techniques, à savoir des groupes d'experts qui se concentraient sur certains sujets. Actuellement, l'Organisation internationale de normalisation a établi plus de 25 000 normes internationales couvrant presque tous les aspects de la technologie, de la gestion et de la fabrication. Je termine l'histoire d'aujourd'hui avec les événements du 23 février 1984. Le Brunei Darussalam a obtenu sa pleine indépendance. Le Brunei Darussalam est un pays monarchique situé sur la côte nord de l'île de Kalimantan, limitrophe de l'est de Sarawak, en Malaisie. Le Brunei Darussalam était auparavant un pays indépendant jusqu'à ce qu'en 1888, ce pays a signé un accord avec l'Angleterre au milieu de problèmes de sécurité à ce moment-là. Brunei est ensuite devenu un protectorat britannique jusqu'en 1984, après plusieurs accords conclus par Brunei et la Grande-Bretagne dans les années 1970. Brunei a déclaré l'indépendance du Brunei Darussalam au 1er janvier 1984, mais le pays n'a obtenu sa pleine indépendance que le 23 février 1984. Le 23 février a ensuite été célébré comme la fête nationale au Brunei Darussalam. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku tahan benara si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di
di ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah.
Tapi kan sadari, seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah Tuhan.
gerinda dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni membuat segalanya seribu alasan kita berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Juritak, pour la vie suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... Le ministère de Commerce cible une balance commerciale de 258,7 milliards de dollars américains en 2025. Le ministère de Commerce fixe la valeur des exportations non pétrolières et gazières pour 2025 dans un montant de 258,7 à 265,2 milliards de dollars. Cela a été révélé par le secrétaire général par intérim du ministère de Commerce, Suhanto, lors de la clôture de la réunion de travail du ministère de Commerce 2024-2025 à Semarang, dans le centre de Java, mercredi 21 février. Cité sur la page Antara, selon Suhanto, pour atteindre cet objectif, le ministère de Commerce renforcera les bases de la transformation à travers trois programmes, à savoir la transformation structurelle, l'intégration régionale ainsi que l'établissement d'une bonne gouvernance commerciale et l'amélioration des ressources humaines. Suhanto a également expliqué que les trois grands programmes incluent l'aval et la transformation. Depuis la structure des exportations indonésiennes basée sur les ressources naturelles jusqu'à celle basée sur la fabrication de haute et moyenne technologie. Le ministère du Commerce transformera également la structure de consommation basée sur le renforcement du potentiel du marché intérieur, le renforcement des bases de la croissance économique régionale et le renforcement des chaînes d'approvisionnement et de la logistique nationale. En outre, le ministère du Commerce procède à des transformations dans le système de protection et d'autonomisation des consommateurs, l'intégration de systèmes de services commerciaux électroniques, ainsi que la numérisation et l'autonomisation des services des ressources humaines. Suhanto a déclaré que le ministère du Commerce mettra également en œuvre une supervision optimale et efficace. En termes d'aval et de transformation des structures d'exportation, le ministère du Commerce s'engage à renforcer la diplomatie commerciale pour la compétitivité, à renforcer le développement des produits et des marchés d'exportation et à créer un système intégré d'informations sur les exportations. Le ministère du Commerce prévoit également de développer le commerce mondial grâce à des systèmes électroniques, la substitution des importations de matières premières qui soutient la transformation des exportations, la transformation du système commercial entre les régions. Le ministère du Commerce organisera diverses activités qui soutiennent ses orientations et objectifs politiques. Ces efforts consistent notamment à poursuivre les priorités nationales lancées en 2024 et à proposer plusieurs nouvelles initiatives tels que le développement des exportations de produits économiques verts et à faibles émissions de carbone, des émissions commerciales, des recommandations politiques pour faciliter les contingents tarifaires, ou CT, et le développement du centre de soutien aux accords de libre-échange. C'est auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Je vais vous présenter Cascade de Tangedu, de Nusa Tenggara orientale, avec Maudry. Chers auditeurs, lorsque vous voyez à Sumba orientale, Nusa Tenggara orientale, il y a la cascade Tangedu que vous devez visiter. La cascade Tangedu est connue sous le nom de Grand Canyon de l'Est de Sumba, en raison de son emplacement entre de belles falaises. L'emplacement est dans le village de Tangedu, district de Kanatang, à environ 46 km de la ville de Waingapu, la capitale de Sumba oriental. Pour atteindre la cascade de Tangedu, vous devez voyager par voie terrestre pendant environ 2 heures depuis Waingapu. Pendant le voyage, vous découvrirez de belles vues. Puis, dans le village de Tangedu, il vous reste encore 3 km à parcourir. Chaque jour, la cascade Tangedu est ouverte tous les jours de 8h à 17h, heure locale. Le prix du billet d'entrée est de 5000 de roupies par personne. En arrivant à la cascade Tangedu, vous serez accueilli par le bruit de l'eau gargouillante coulant d'une hauteur d'environ 8 mètres. Il y a 2 cascades de débits pluviaux différents. L'eau est très claire et propre. Vous pouvez donc voir le fond bleu de la piscine. Cette piscine est assez large et peu profonde. Vous pouvez donc nager ou faire du body raft. Chers amis, en dehors de la baignade, n'oubliez pas d'immortaliser l'instant en prenant des photos. La cascade Tangedu offre plusieurs toiles de fonds naturels intéressantes. Pour les photos, chaque arrière-plan fournit une image unique. Vous pouvez poser avec une cascade en arrière-plan. L'angle photo qui n'est pas moins intéressant est le fond des falaises rocheuses sur les rives gauche et droite de la rivière. En dehors de cela, la piscine entourée de reliefs rocheux de différentes couleurs constitue un bel endroit pour prendre des photos. Pour les installations, cette attraction touristique est équipée d'un restaurant et de salles de bain. Bon, chargé d'art, c'est tout. Le magazine culturel.
Upayaku untuk hidup baru dengan semua gelapnya hidupku.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Indonésie figure sur la liste des destinations touristiques les plus populaires au monde » avec Maudrey. Sur le tard, l'Indonésie avec ses extraordinaires recherches naturelles et culturelles est de plus en plus reconnue sur la scène internationale comme l'une des destinations touristiques les plus attractives au monde. Dans les prévisions pour l'année à venir, l'Indonésie figure dans la liste des destinations touristiques populaires à visiter. Divers facteurs tels que la beauté naturelle, le patrimoine culturel et la gentillesse des gens sont devenus un aimant pour les touristes mondiaux. Un certain nombre d'experts du voyage dans le monde prédisent des destinations touristiques populaires tout au long de 2024. Au total, 27 villes, îles et pays sont inclus dans cette liste de prévisions, y compris l'Indonésie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Serge Littard, l'écrivaine voyageuse Isabelle Léon décrit l'Indonésie et ses richesses naturelles. Partant du paysage naturel, des plages immaculées et des attractions spirituelles, en particulier à Bali, cela semble très spécial. Léon, cité dans le Huff Post, a écrit que lorsque le monde recherche de plus en plus de destinations offrant un mélange harmonieux de détente et d'aventure, Bali apparaît comme le paradis ultime. Karim George, conseillère en voyage et fondateur de Culture Traveler, a des opinions similaires. George a loué la beauté des îles indonésiennes ainsi que l'étendue des rivières, les marchés locaux et les traditions. Tout le monde est à la recherche de nouvelles destinations passionnantes et l'Indonésie, le plus grand archipel du monde, offre une variété d'expériences au-delà de Bali. Outre l'Indonésie, d'autres pays incluent dans la liste des destinations touristiques mondiales les plus populaires comprennent la Slovénie, le Vietnam, le Mexique, la Californie, l'Afrique du Sud, l'Argentine, Istanbul en Turquie, le Japon, la Thaïlande, le Costa Rica, Tromsø, la Norvège, l'Outaouais et le Québec, Minorque, Espagne, île de Beira, Mozambique, Tirana, Albanie, île Vierge Britannique, Wrocław, Pologne. Bon changement de temps, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Of Indonesia.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Avec moi, Audrey, je vais vous présenter une chanson de Bouton sur la Wesi du Sud-Est, intitulée Wandiu Ndiu. Chers amis, la chanson Wandiu Ndiu, qui signifie la sirène, a été écrite par la Ode Imaduddin. Cette chanson est étroitement liée à la culture et aux traditions orales du peuple boutonnais. Wandiu Ndiu raconte l'histoire d'une mère qui s'est transformée en sirène parce qu'elle a nagé trop longtemps dans l'océan à la recherche de nourriture pour ses enfants. En attendant, la mère qui n'est jamais rentrée à la maison, cette chanson a été chantée par l'un des enfants qui a appelé sa mère pour qu'elle rentre à la maison pour allaiter son jeune frère, lorsque la maman n'est pas totalement squamouse. Elle peut écouter et venir à la rencontre de son enfant. Cependant, alors que tout son corps était couvert d'écailles de poissons, il n'entendait plus la chanson Wandiu Ndiu que son fils chantait sur la côte. Bon, chers auditeurs, voici Olan Maleo va chanter une chanson de Sulawesi du Sud-Est intitulée Wandiu Ndiu. Bonne écoute!
Why?
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.